France Culture.
Les nuits de France Culture.
Autrefois, en France comme ailleurs, on coupait le frein de la langue des bébés. On pensait alors que cela assurerait aux bébés une certaine maîtrise de la parole. On redoutait plus que tout l'enfant mutique, qui n'utilise pas la parole pour prendre sa place dans le monde. Si cette mutilation, par ailleurs dangereuse pour l'enfant, est de moins en moins pratiquée, le primat de la parole sur le silence demeure dans l'apprentissage des enfants. Les injonctions à parler, à s'exprimer, parfois à l'excès, sont légion. Mais qu'en est-il de l'apprentissage du silence ? N'a-t-il pas lui aussi une valeur propre, une importance centrale non seulement pour l'individu, mais pour son être en société ? Ce numéro des Nuits magnétiques de Christophe Deleu et Colette Fellous revient sur les raisons symboliques et sociologiques qui ont fait du silence quelque chose de négatif, qui incarne la destruction et la mort. L'enfant, l'adolescent ou l'adulte silencieux peut-il être heureux ? Réponse avec l'anthropologue David Le Breton, le comédien Henri Caccia, le chroniqueur Jacques Deperne et les témoignages d'Anne-Laure, Denise Marie et Giuseppe. Une émission diffusée pour la première fois le 29 mars 1999 sur France Culture.
Nuit magnétique, bonsoir.
David Le Breton, est-ce que je peux vous montrer ma langue ?
Oui.
Alors, vous allez voir si vous remarquez quelque chose.
Oui, votre langue frémit.
Et en dessous de la langue, vous ne remarquez rien ?
Oui, c'est le filet de la langue. Que dans beaucoup de sociétés humaines, les femmes coupent pour que l'enfant, justement, ait une aisance de parole qui s'impose dans un certain nombre de sociétés. C'est vrai dans nos sociétés occidentales, où il existe d'innombrables rituels. C'était parfois la sage-femme, d'ailleurs, la femme qui accouchait, la femme qui aide, comme on dit dans certaines régions, qui coupait le filet de la langue de l'enfant avec son doigt ou avec un petit ciseau.
Mais si je vous dis ça, c'est parce qu'on m'a coupé le filet à la naissance.
Ça, par contre.
Donc, je voulais savoir ce que ça signifiait, quoi, parce que j'ai essayé de savoir, en fait, on m'a dit qu'en fait, c'est parce qu'on avait peur que la langue reste coincée et que je ne parle pas.
Oui, voilà. Non, c'est une forme de prévention traditionnelle du silence de l'enfant. On imagine guère un enfant qui ne dirait rien, qui resterait dans son coin. Donc, il faut absolument prévenir, avec les moyens traditionnels, les moyens symboliques, donc le mutisme possible de l'enfant.
Enfin, à mon avis, on projette notre propre monologue sur le tout petit. On se fait des histoires hein, quand on est avec un petit, quand on le change, quand on le lave, quand on lui donne à manger, etc. Et c'est tout ça, quoi. On se raconte un petit peu des histoires. Et je trouve, enfin, parfois je me dis, mais comment ils peuvent prendre leur place dans notre propre. J'allais dire quand le train est en route un petit peu. Comment eux, ils prennent leur place dans tout ça. Et ça me frappe peut-être plus pour la seconde que pour la plus grande. Parce que je me rends peut-être plus compte de tout ce que je peux me raconter, moi, à propos d'elle. C'est ça, en fait. On laisse pas, peut-être pas assez, justement, le silence. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas. Parce que peut-être que c'est trop angoissant de rester comme ça. Enfin, le silence est peut-être trop angoissant, quelque part. Peut-être.
Est-ce que vous avez parfois été vous-même angoissé par rapport au silence ?
Oui, je pense que... Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comme... J'arrive pas tellement à faire le silence. Que ce soit extérieur ou intérieur, quoi. C'est vrai, la parole, c'est... C'est une sacrée défense. Hein, c'est une arme. Et puis, ça peut tenir l'angoisse un peu éloignée, hein, par moment. Donc, peut-être que justement, c'est par peur, oui, de ce silence, oui. Être tout le temps en train de vouloir expliquer, raisonner, analyser, se faire comprendre en permanence. C'est vrai que le silence, souvent, pour moi, c'est synonyme d'opacité. Donc, automatiquement, ça, je l'admettrais mal chez l'autre. Et moi, je parle beaucoup. Donc, c'est vrai que ça m'angoisse plutôt. Ce silence.
Bouche cousue, aux langues bien pendues, on choisit pas toujours son camp. On voudrait bien parfois être un peu plus éloquent, mais on se refait pas, en tout cas pour moi c'est peine perdue.
Pas causant, timide, taciturne, pas drôle, chiant, froid, distant. Voilà ce qu'il pense de l'enfant venu avec ses livres. Pourquoi ne parle-t-il pas à cet enfant ? Pourquoi ne se rapproche-t-il pas des autres ? Lire dans un repas de communion, franchement, ça ne se fait pas. L'enfant se cache sous la table. C'est comme en classe, de bons résultats, mais pas de participation. Pour qui se prend-il cet élève ? Se croit-il supérieur aux autres ? L'enfant a grandi, il a appris à parler. Lycéen, il ne fait plus que ça. Monologues interminables, jeux de mots moqueurs et agressifs, liste de choses intelligentes à dire, il faut que ça parle pour rencontrer l'autre. Pas de place pour l'improvisation. Mais le silence revient, s'impose à nouveau. L'étudiant se demande, peut-on apprendre le silence ? Comment être avec l'autre sans lui parler ? Il y a quelque temps déjà, devant la vitrine de la librairie Nélis, je suis intrigué par un nouveau livre, couleur bleu sombre, comme un lézard sur la couverture. Son titre, Du silence. Mars 1999, je décide de rencontrer son auteur, David Le Breton. Peut-être saura-t-il me dire le silence.
Ben, j'ai essayé d'élaborer une anthropologie du silence, c'est vrai, mais dont le point de départ était sans doute aussi mon malaise d'un homme plutôt silencieux dans la vie courante. Donc c'était un peu une réparation psychologique, peut-être aussi au fil de mon histoire personnelle, d'avoir été un gamin plutôt silencieux, un adolescent mal dans sa peau et qui n'a pratiquement jamais fait d'exposé d'ailleurs dans le cours de sa scolarité, ce qui est assez vertigineux quand on y pense. J'ai fait mon premier cours à la fac comme chargé de cours, mais je me souviens de l'angoisse immense que j'éprouvais à ce moment-là, qui m'a amené d'ailleurs à vomir en cours de route et à me dire bon, si je suis pas capable de faire des cours, je suis capable de rien dans la vie. Sinon peut-être d'écrire, mais en tous les cas, j'aurais du mal à gagner ma vie en écrivant. Donc il faut. Et puis en plus, j'aime aussi transmettre des choses. Donc j'ai réussi à reprendre le contrôle de moi-même. Et puis heureusement, c'était un cours où il y avait 5-6 étudiants seulement. Donc ça s'est très très bien passé. Et puis ça m'a un petit peu légitimé dans ma parole. Je pense que pour une part, en tous les cas, pour quelqu'un comme moi, la difficulté de prendre la parole dans un contexte universitaire ou dans un contexte de débat intellectuel vient peut-être de mes origines sociales, pour une part, puisque j'ai grandi dans un milieu ouvrier, dans un milieu donc où la parole ne s'impose pas nécessairement, et où sans doute il y avait un certain insolite pour moi de faire des études, d'entrer à l'université et puis un jour d'enseigner et puis finalement d'arriver un statut universitaire important. Bon, donc, il reste toujours en moi le sentiment de pas être tout à fait à ma place, d'être plutôt un observateur de ce monde.
C'est un sujet de réflexion, quoi, sur un thème particulier ou je sais pas quoi. Le silence, il me sert à réfléchir, quoi, pas dire de conneries, parce que c'est une angoisse terrifiante, ça, de dire des conneries. Et puis, c'est... Ouais, c'est le moment qui me permet de prendre du recul par rapport à ce qui s'est dit avant. Quand c'est dans des groupes un peu plus larges où il y a plusieurs personnes et que c'est une conversation à bâton rompu, en fait c'est assez rare que j'intervienne parce qu'en fait je crois que quelque part je me place plus en observatrice, que je participe moins de ces conversations que les autres, et je crois que je préfère les regarder rire et s'envoyer des vannes plutôt que d'être dedans, ce qui m'empêche pas d'être dans le groupe, mais c'est un peu mon espace de liberté, ce silence, je crois. Et ça peut beaucoup gêner aussi les gens.
Est-ce qu'on t'a déjà dit justement que ça pouvait gêner ?
En fait, je crois que surtout mes copains, quand ils sentent qu'il y a ce silence et que ça leur pèse, ils n'osent pas me le dire tout de suite. C'est jamais immédiat. C'est peut-être trop dérangeant, je ne sais pas trop. Souvent, ça arrive le lendemain ou le surlendemain. Tiens, t'étais... C'était silencieuse. Et le silence s'est perçu comme une non-présence. Comme une manifestation parfois de rejet. Et moi, ça m'arrive d'être silencieuse parce que je suis énervée, parce que j'ai pas envie de... Parce que j'ai envie, en fait, d'être seule. C'est aussi ça. Mais c'est pas quelque chose qui me gêne. Et c'est très embêtant de se retrouver après en train de dire « Non, mais en fait, ça allait très bien, mais... mais j'ai pas participé, parce que j'avais pas envie, mais... » En fait, c'est plus les autres que ça dérange que moi. Moi, c'est quelque chose qui m'était pas du tout naturel. Et je sais pas du tout de quand ça date, en fait. Je pense que c'est venu progressivement de m'approprier ce silence. De me l'approprier soit pour me préserver, soit pour... soit aussi pour me rassurer, parce que j'ai une période où je supportais pas d'être toute seule, où je supportais pas l'isolement, et toute manifestation de silence venant d'autres personnes me paraissait vraiment effrayante. Je me disais, mais qui, mais pourquoi ceux-là sont silencieux avec moi, et qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il n'y ait pas d'intérêt à être avec moi, ou des choses comme ça. Et c'est pareil, ça, c'était avec des copains qui étaient plutôt assez proches de moi. Et c'est en discutant avec eux que j'ai compris que c'était juste... c'était pas du tout une forme de rejet, que c'était une façon d'être avec les gens et qu'on pouvait partager énormément de choses juste aux sensations, quoi, en laissant le silence s'installer pour profiter de tout ce qui arrive à côté, quoi.
Presque un défi d'une certaine manière. Essaie un peu de te taire pour voir ce que ça va faire, quoi.
Le silence, pour moi, j'en ai besoin seulement quand je dors, c'est tout. Mais je sais pas, le silence... je me souviens pas avoir eu un moment de silence dans ma vie, non, c'est vrai. Quand tu me dis silence, c'est-à-dire tu rends pas de bruit, quelque chose sans rien.
Non, mais surtout, se retrouver avec une personne et on ne parle pas. J'ai l'impression que ça ne t'est jamais arrivé.
Non, parce que même avec mon chien, je parle, alors. Donc non, moi non. Mais puis bon, je me suis jamais retrouvé d'abord avec quelqu'un qui parlait pas, parce que je côtoyais jamais personne qui parlait pas. Tous les gens que j'ai connus, aussi bien famille que amis, les gens y parlent. C'est naturel, on discute de tout, de ce qu'on a fait dans la journée, de ce qu'on aime bien, de ce qu'on va faire... je peux même dire que quand je me retrouve seul dans ma voiture, parce que j'ai un métier où je roule beaucoup, je chante ou je siffle, ou je me mets à parler. Je parle de comme si je racontais l'entrevue que je venais d'avoir avec mon directeur, même si je suis tout seul dans ma voiture. Tu vois ? Mais je pense que je m'arrête jamais de parler. D'ailleurs, ma femme, elle me le dit souvent. À un moment, elle pense que je suis au téléphone à la maison parce que je parle tout seul, ou je chante, ou je parle avec mon chien... Donc il faut vraiment que je dorme, tu vois, encore je me demande si je parle pas en dormant.
Henri, par rapport à l'angoisse du silence, quand on est comédien, quand on est sur scène, c'est bien, parce qu'on peut faire des silences, on peut apprendre le silence et faire des silences quand on veut sur scène, les maîtriser en quelque sorte, alors que dans la vie, forcément, ils angoissent.
Là, je vais peut-être vous surprendre, mais en tous les cas, sur la scène, ils angoissent aussi beaucoup. Enfin, en tous les cas, moi, quand j'étais jeune comédien... ce qui m'angoissait surtout, justement, c'était d'avoir à jouer des silences. Parce que pendant ces moments-là, j'ai une petite tendance parano, naturelle. Donc ce qui se passait dans ces moments-là, c'est que je me disais, le public, qu'est-ce qu'il en pense, ça va pas, je lui plais pas, etc. Donc moi, j'ai toujours essayé, quand j'ai commencé à jouer au théâtre, j'ai toujours, au contraire, je fuyais les silences. Parce que c'était effectivement une grande poche d'angoisse qui était assez insupportable. Donc je trouvais toujours des prétextes quand certains metteurs en scène me demandaient justement de jouer des silences. J'essayais de trouver toujours des justifications à un jeu plus rapide, plus soutenu, avec des actions, etc. Mais toujours remplir, un petit peu, parce que c'est un peu comme ça dans la vie. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, le silence, c'est pas... c'est considéré un peu comme du vide. Hein, alors qu'effectivement, c'est complètement... ça peut être beaucoup de plein. Mais, donc, et au fur et à mesure que j'ai approfondi mon travail de comédien, puisque ça fait plus de 16 ans que je suis comédien, au fur et à mesure, j'ai appris quand même à apprivoiser cette chose-là, parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose, au contraire, de très très important, bien sûr. Hein, et que pendant ces silences-là, il n'y avait plus les doutes uniquement d'Henri Cachia, mais il y avait davantage de place pour les sentiments et les émotions du personnage que j'étais en train de jouer, quoi.
Si son temps n'était guère absorbé par les rendez-vous féminins, ils étaient entièrement remplis par l'attente de ces rendez-vous. Et cette attente n'était pas une simple contemplation de l'avenir, mais une préparation et une étude. Jaromil était persuadé que l'essentiel pour qu'un rendez-vous réussisse, c'était de ne pas tomber dans un silence gêné et de savoir parler. Un rendez-vous avec une jeune fille, c'était d'abord l'art de la conversation. Il tenait donc un cahier spécial où il inscrivait des histoires dignes d'être racontées. Pas des histoires drôles, car celles-ci ne peuvent rien révéler de personnel sur celui qui les raconte. Il notait des aventures qui lui étaient arrivées personnellement. Et comme il ne lui en arrivait aucune, il les imaginait. À cet égard, il faisait preuve de bon goût. Les aventures qu'il inventait ou dont il se souvenait pour les avoir lues dans un livre ou les avoir entendues raconter, et dont il était le héros, ne devait pas le représenter sous un jour héroïque, mais seulement le transporter délicatement, presque imperceptiblement, du monde de la stagnation et du vide, dans le monde du mouvement et de l'aventure. Il notait aussi différents extraits de poèmes, et soit dit en passant, pas des poèmes qu'il admirait lui-même, dans lesquels les poètes s'adressaient à la beauté féminine et qui pouvaient passer pour une répartie spontanée. Par exemple, il avait inscrit dans son cahier le vers « De ton visage, on pourrait faire une cocarde, les yeux, la bouche, les cheveux. » Évidemment, il fallait dégager les vers de l'artifice du rythme et les dire à la jeune fille comme s'il s'agissait d'une idée soudaine et naturelle, un compliment spirituel et spontané. « Ton visage, on dirait une cocarde. Tes yeux, ta bouche, tes cheveux, c'est le seul drapeau que je puisse admettre. » Pendant tout le rendez-vous, Jaromil pense à ses phrases préparées d'avance et redoute que sa voix ne paraisse pas naturelle, que ses phrases fassent l'effet d'une leçon apprise par cœur et que son ton soit d'un amateur sans talent. Ce qui fait qu'il n'ose pas les dire. Mais comme elles absorbent toute son attention, il ne peut rien dire d'autre. Le rendez-vous se passe dans un silence pénible. Jaromil perçoit l'ironie des regards de la jeune fille et il la quitte bientôt, avec un sentiment de défaite.
Penser, repenser, préparer des phrases dans la tête, ça oui, beaucoup. Et ça, c'est vrai que ça ne laisse aucune place au dialogue, quoi. Enfin, avec le recul, maintenant, je vois très clairement que c'était... à la limite, j'ai un peu de compassion même pour l'adolescent ou le jeune homme que j'ai pu être, parce que je trouve que c'était vraiment vraiment difficile, quoi, de devoir préparer. Alors que la parole, pour moi, c'est vraiment un acte libre et que c'est un outil génial, quoi. C'est le reflet de quand on a une parole libre. Je crois que c'est là qu'on se sent vraiment exister, qu'on existe vraiment avec une parole libre. En fait, si effectivement on prépare avant, je sais pas ce que c'est, mais enfin c'est pas vraiment une parole. Enfin, hein, c'est c'est espérer qu'il n'y ait pas ces silences traumatisants, je ne sais pas. Enfin, donc, mais c'est vrai que j'ai beaucoup pensé les choses. Et évidemment, quand j'arrivais devant la personne en question, je crois que j'arrivais pas, je ne sortais pas ce que j'avais prévu, ou enfin, je ne sais pas. C'est vrai que tout ça, ce sont des souvenirs très, très douloureux, quoi, finalement, dont je suis content d'être sorti en partie.
Quand on est adolescent, c'est l'impératif d'exister au sein d'un groupe d'amis, le problème de la rencontre avec l'autre, les premières relations amoureuses et autres. Donc, effectivement, c'est un moment... En plus, il y a la question de la mue de la voix qui fait qu'on a l'impression que notre voix nous échappe. Donc, on a d'autant moins envie de parler que tout paraît d'une complexité folle. Oui, je pense que l'adolescence est un moment clé dans l'entrée dans la parole ou dans le silence, et que je crois que l'adolescent silencieux restera un homme ou une femme silencieuse au cours de sa vie, et que l'adolescent qui parle sans difficulté continuera à parler sans difficulté jusqu'à la fin de ses jours.
Est-ce que vous avez des souvenirs de, quand vous étiez adolescent, de silence vraiment qui mettent mal à l'aise?
C'est davantage pour moi une ambiance. Moi, j'ai jamais été mal à l'aise dans le silence. Par rapport à mon adolescence, j'aurais pas de moment fort à vous évoquer. C'est plutôt après, quand j'ai commencé à être enseignant, ou non, quand j'ai commencé à être étudiant, que les choses m'ont vraiment frappé. Parce que j'ai fait énormément de dynamiques de groupe quand j'étais étudiant. Donc, les dynamiques de groupe, ça veut dire de rester pendant 2 jours, 3 jours ensemble. Une dizaine de personnes, avec l'impératif de ne parler que des choses qui se passent à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de thème de débat. Donc on est là tous ensemble et il faut nourrir la parole sans fuite, parce qu'il y a un animateur qui est là pour vous dire « mais tu parles de ce que tu as fait la semaine précédente ». C'est pas l'objet du débat, on est là pour parler de ce qu'on ressent à l'intérieur du groupe. Alors en tant qu'étudiant et puis plus tard en tant qu'animateur de ces groupes, là j'ai vraiment énormément appris sur le silence et sur la parole. Peut-être que ça m'a amené aussi à mieux apprivoiser le malaise des autres et à faire en sorte qu'il soit quand même pas trop fort lorsque j'étais dans une interaction. Parce qu'une dynamique de groupe démarre souvent par 2 heures, 3 heures, 4 heures de silence. Et souvent le silence est rompu, enfin ça avait été très très fort dans mon expérience d'étudiant, le silence est rompu par quelqu'un qui éclate soudain en sanglots et qui dit « je ne supporte plus ce silence, ça m'évoque la mort de quelqu'un, la mort de mon père, la mort de mon frère et autres ». Et à ce moment-là il se passe à l'intérieur du groupe une espèce de symbiose affective énorme. Et j'ai compris à ce moment-là que le silence était aussi souvent lié pour les autres à la mort, à la destruction de la parole, à la destruction du lien social. Et c'est là, je pense, où j'ai plein de souvenirs, effectivement. Pourtant, ça remonte à 20 ans, mais je revois encore des visages décomposés. Je revois la souffrance de quelques-uns, le malaise de quelques autres.
Portent une croix, les mots parce qu'ils savent le chemin difficile qui conduit à l'échange. Ils portent une croix, les mots parce qu'ils savent tous les chemins de pierre des hommes en souffrance. Et s'ils chantent les mots, c'est qu'ils ont une voix qui nous dit d'écouter. L'âme éblouie des mots, vif et beau, les mots sont les oiseaux de la parole. Saurons-nous leur laisser vie et force d'envol? Vif et beau, les mots sont les oiseaux de la parole. Saurons-nous leur laisser vie et force d'envol? Les mots sont les oiseaux de la parole.
La première fois où j'ai goûté le silence, c'est quand j'ai compris que c'était bien d'être tout seul dans son appartement à lire un bouquin, et que c'était pas forcément terrible de pas être tout le temps avec des gens, de pas être tout le temps pendu au téléphone ou des choses comme ça. Il y a un côté recueillement c'est pas religieux, mais c'était un besoin. Par exemple, je prends juste l'exemple d'une balade à Beyrouth cet été, où j'allais dans un ancien camp de réfugiés palestiniens, et on était deux, et j'ai fait une partie du trajet, nous avons fait une partie du trajet à pied, et on ne s'est pas dit un mot, pas un, et parce qu'il y avait tellement de choses à apprendre au niveau des sons, au niveau des couleurs, au niveau des odeurs et tout ça, que finalement on s'est laissé emporter par ces éléments-là et que c'était très bien qu'on se parle pas. Et c'était même beaucoup mieux. Et on en a discuté après et finalement, l'un comme l'autre, on avait beaucoup, beaucoup apprécié le silence qui s'était installé entre nous deux, quoi. Pour moi, ces moments-là, c'est vraiment des moments très, très forts. Donc après, que ça soit quelque chose qui s'intègre plus dans ma façon de parler au quotidien et tout ça, c'est quelque chose que je contrôle pas forcément, que je maîtrise pas du tout. Mais il y a des moments où volontairement, je me débrouille dans une conversation pour installer un silence parce que j'en ai besoin, parce que ça, c'est une respiration.
Alors, David de Breton, moi je cherche un pays où finalement je pourrais rester silencieux. Où dois-je aller vivre là ?
Vous pourriez aller chez les Quakers, qui est une secte religieuse puritaine, ou encore pire, chez les Amish, parce que chez les Amish, non seulement on parle très peu, mais en plus on ne fait pas de bruit. Mais chez les Quakers ou chez les Amish, on reste très silencieux dans la vie courante, on ne parle que lorsque la parole s'impose, les prières sont silencieuses. Donc ce sont des univers très, très silencieux, très tranquilles. Vous pourriez aller vivre dans un monastère, c'est une belle expérience, d'aller vivre dans un désert. Ou alors, vous pouvez aller vivre chez les Amérindiens. Beaucoup de sociétés amérindiennes en Amérique du Nord ont des régimes de parole qui misent énormément sur le silence.
Les mots sont insuffisants pour transmettre l'essentiel. C'est-à-dire que dans la plupart des sociétés traditionnelles, c'est le symbole qui finalement était là pour pallier les insuffisances des mots. Les mots sont même à la limite souvent dangereux. Il va de soi que pour le quotidien, pour la vie, pour l'action, les mots sont indispensables. Mais quand il s'agit de transmettre des choses fondamentales, des choses essentielles, l'essence, le cœur d'un sujet, est-ce que c'est vraiment par les mots qu'on peut passer quelque chose ? Je ne pense pas pour ma part. Et cette expérience de la pratique du zen en particulier a quelque part fait la démonstration que ce que j'avais appris d'important au sujet du bouddhisme, c'était bien plus que ce que j'ai pu trouver dans les bibliothèques, dans les livres ou dans les conférences. Non, c'est dans une expérience, dans une pratique sans les mots.
La conversation a ses règles culturelles qui sont pas du tout les mêmes d'un lieu du monde à un autre, d'une classe sociale à une autre. Et si dans nos sociétés occidentales il est de règle de manifester une certaine loquacité, dans beaucoup d'autres sociétés c'est au contraire le silence qui s'impose, ou alors on ne parle que quand il y a quelque chose vraiment d'important à dire. Mais dans une société par exemple où les hommes sont très silencieux, on n'éprouvera jamais le besoin de dire de quelqu'un qu'il est silencieux. Et dans une société où les hommes parlent tout le temps, j'imagine des quartiers populaires de Naples ou d'ailleurs, on n'imaginera pas de dire de quelqu'un qu'il est bavard, parce qu'il y a un impératif de parole qui est de nourrir en permanence les échanges avec les autres sans qu'il y ait le moindre temps de silence. Dans les banlieues, il y a un peu ça aussi, ça m'évoque une anecdote que raconte David Lepoutre. À un moment donné, il est dans un hall d'escalier dans la banlieue nord de Paris et il rencontre un jeune beurre qui passe par là. Donc ils échangent quelques mots de routine et puis ils se taisent mutuellement, n'ayant plus rien à se dire. Donc quelques secondes passent, quelques secondes encore, et puis tout d'un coup le jeune explose et dit parle au sociologue qui comprend à ce moment-là donc l'immense malaise éprouvé par ce jeune. Et on sait qu'effectivement les gamins de banlieue ont une vitesse de parole absolument fulgurante. Il y a pas le temps du silence, il y a un impératif de parler. On existe parce qu'on parle.
C'est peut-être une éducation que j'ai eue d'être franc dans tout ce que je devais dire, dans tout ce que je devais faire. Et quand j'avais quelque chose à dire, y compris chez moi, c'était pas une monarchie, on parlait. Et mon père a toujours écouté et a toujours demandé des fois même, vous voulez qu'on fasse ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on discutait entre nous. Et puis bon, ben, combien de fois on a mis ça au vote à la maison? Et puis ben, on votait.
Mais quand tu te retrouves avec quelqu'un qui ne parle pas, qu'est-ce que tu fais?
Eh ben ça dure pas longtemps, hein. Ça dure quelques minutes. Si je vois qu'il parle pas, ben je me lève et je m'en vais.
Qu'est-ce qu'on peut redouter du silence? Oui, je pense qu'à ce moment-là, le problème aussi, c'est oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a les autres, mais il y a surtout soi. C'est-à-dire qu'en face de quand on est face au silence, on est à ce moment-là face à soi-même. Et à ce moment-là, ben, on a à s'affronter, quoi. C'est-à-dire qu'en fonction de ses complexes, on va remplir ce silence par peut-être des agressions intérieures. Enfin, ça dépend, c'est le rapport qu'on entretient avec soi-même. Si on s'aime beaucoup, si on ne s'aime pas du tout, si on s'aime un peu, etc. À ce moment-là, dans les silences, va surgir le dialogue intérieur, quoi. Et donc, à ce moment-là... on peut se faire du mal, et du coup, c'est vrai que ça peut être une fuite, une façon de ne pas se faire face, que de vouloir remplir à tout prix par des mots, des plages de silence que finalement on redoute, quoi.
Le silencieux est analyse, et il se parle en lui-même. Il dit, ce gars-là, c'est un con en face de moi, ou je sais pas, ou il est très intelligent, ou alors il me surprend, je sais pas, il peut... Et ça, ce sont des gens qui se mettent... Moi, je les compare à des gens qui veulent se mettre un peu au-dessus du lot parce qu'ils veulent porter un jugement.
Le silence, ça peut aussi être une façon de dire à des gens « Vous m'emmerdez. » Vraiment.
Moi, je porte jamais de jugement sur personne. Peut-être sur les silencieux, mais je les juge pas. J'essaye de les sonder. Si je vois que vraiment, il n'y a rien à faire, ben, je m'en vais. Pour moi, c'est un imbécile. Sans vouloir le juger. Il a une réaction imbécile. Tu comprends?
Oui, mais moi, c'était... Je ne savais pas quoi dire. C'est-à-dire, je ne savais jamais quoi dire. En fait, je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, j'avais plein de choses à dire, mais que, enfin, de par mon éducation, on ne va pas remonter trop loin, il m'était interdit quasiment de parler. Parce que... À l'époque, je me mêle des conversations des grands, etc. Or, en fait, dans ma famille, il y avait des grands. Donc, en fait, je ne parlais jamais. Et donc, les silences étaient... donc, ça, c'était un truc que j'ai intériorisé. Et qu'après, dans ma vie, ça a toujours été de gros problèmes. D'être en face de quelqu'un, et effectivement, quelqu'un qui ne parle pas, ou qui parle peu, ou qui parle jamais, on commence à... Enfin, plus qu'à se poser des questions, quoi. C'est on trouve la personne quand même très très bizarre, asociale. Pourquoi pas fou, donc est-ce qu'il a la place encore d'être avec nous, etc. Donc des silences traumatisants, bien sûr que j'en ai eu beaucoup, parce que c'était quand me venaient certaines phrases, enfin des choses que j'avais à dire, elles m'apparaissaient toujours comme ridicules, honteuses, ou je ne sais trop quoi, ce qui fait que je ne parlais jamais. Donc il y avait comme un, en fait, ce silence m'était imposé, on peut dire, de l'extérieur, et c'était effectivement complètement traumatisant, parce que je me disais toujours qu'on pensait que des choses négatives de moi-même. Donc c'est vrai que de commencer à faire un peu de théâtre, disons que j'ai rempli ces silences avec les mots d'un autre, enfin d'autres, hein, puisque parler, ça a été une étape en tous les cas, une étape thérapeutique, de parler avec les mots d'un autre, parce que c'est vrai que pour certaines personnes, ça paraît presque, pas un exploit, mais en tous les cas, quelque chose de très très difficile que d'être sur une scène, effectivement, et de dire du texte. Bon, or pour moi, ça a été comme une, au contraire, comme une libération, puisque bon, ça a été une étape, ça a été une façon de commencer à parler. C'était pas vraiment moi qui parlais, puisque je parlais encore une fois avec les mots de quelqu'un d'autre, de personnage, mais ça a commencé à dégeler un petit peu ma propre personne.
Que la première fois justement que je t'ai rencontré et que je t'ai eu en face de moi, c'est vrai que ces silences au départ m'ont mis mal à l'aise. Et c'est vrai qu'on se demande, mais à quoi peut-elle penser pendant ces silences? Est-ce qu'il faut relancer? C'est vrai que ça peut mettre au départ mal à l'aise l'autre quand il n'est pas habitué.
Ouais. En plus, je m'en rends compte des fois. C'est pas du tout pervers. Pas du tout. Non, je m'en rends bien compte, mais... En fait, quand je m'en rends compte, j'essaye de faire passer d'une manière ou d'une autre que ben c'est pas du tout pour gêner que je suis silencieuse, que c'est un peu de moi quoi. Et mais c'est vrai que ça, c'est aussi un peu c'est pas autoritaire, mais c'est un peu... Enfin, de l'imposer comme ça, bon, c'est pas toujours conscient, mais quand c'est conscient, c'est pas toujours très sympathique. mais la première fois aussi... Enfin, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que la première fois que je suis venue ici et que tu m'as parlé un petit peu de ce que tu faisais et tout ça, mes silences... c'est aussi enfin c'est vachement bizarre, mais c'est aussi parce que des fois je suis impressionnée ou parce que je panique aussi. Ça peut être aussi une façon de dire oh là là, attention, alors là faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Mais il y avait aussi beaucoup de ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me retrouvais dans un monde où on avait le temps, où il n'y avait pas... enfin, une espèce de petite bulle où il y avait un type qui était là, qui avait le temps de parler, qui avait... et qui, d'une manière ou d'une autre, c'est un petit peu ce que tu faisais, que tu réfléchissais sur... sur la parole, sur prendre le temps justement de faire les choses. Ça m'a fait tout bizarre. Et le silence, c'était juste le moment qui me permettait de prendre un peu de recul, me reprendre aussi, pour pas m'embarquer dans des trucs inintéressants, enfin que j'aurais eu peur que tu juges inintéressant. Donc c'est exactement le contraire de ce que toi tu as senti. Et c'est marrant que tu l'aies ressenti exactement dans le sens inverse. Mais ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on n'a pas du tout discuté de ça à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, la gêne d'un côté comme de l'autre, en fait, est passée. Et puis, on s'habitue ou on ne s'habitue pas, mais c'est très très rare les personnes avec qui tu parles du silence comme ça. Directement, intuitivement, quoi, sans... Moi, je pense que les personnes qui... Enfin, les amis que j'ai eus, et que j'ai toujours d'ailleurs, qui font comme ça parfois des silences assez longs, d'abord, ils sont très très rares, ceux avec qui j'en ai parlé, et surtout, j'ai jamais eu la réaction, au moment où ça me gênait, de dire à l'autre pourquoi t'es silencieux. Ça m'agresse, pourquoi t'es silencieux. Et ça serait peut-être... Enfin, c'est quelque chose, maintenant, je me rends compte que j'aimerais bien le faire. Mais... c'est très très difficile de savoir expliquer ça. Et
de... En fait, ça peut aboutir à un malentendu.
Ah ouais. Ouais.
En silence, sans même tenter de t'expliquer par quelle inadvertance j'ai tenté hier soir de me raconter ce qui te semblait des invraisemblances. L'été en somme, en vérité, je suis bourré de condescendance pour mes faiblesses et du ravaler. Ce qui fait que je flanche quand on essaye de m'apprécier. Ce qui fait que je flanche quand on essaye de m'apprécier. En silence, sans une excuse mal formulée, sans même un billet d'absence, doucement la porte est refermée. En silence, sans une excuse mal formulée, sans même un billet d'absence, doucement la porte est refermée.
Oh, moi le silence qui me pèse le plus, c'est vrai, c'est le silence dans la relation amoureuse. C'est vrai que ça, c'est... Je crois que c'est ça qui me... Parce que j'arrive pas à le comprendre. Je l'interprète automatiquement comme un... Peut-être un refus, quoi. Au lieu de l'interpréter de façon... Bon, c'est la réaction de l'autre, quoi. De lui laisser sa réaction. Je vais l'interpréter comme un refus de communiquer ou une dénégation de ce que je suis, quoi, automatiquement. Et c'est pour ça que je vais relancer absolument. Puis alors, plus je relance, plus le silence se fait de l'autre côté. Et c'est une espèce de cercle vicieux et... Et donc, je crois que c'est là que ça m'angoisse le plus, le silence. Dans ce type de relation. Je pense. C'est... Peut-être pas seulement, d'ailleurs, dans cette... Enfin, c'est là où c'est le plus prenant, hein, dans cette relation. Mais sinon, c'est vrai que... oui, c'est toujours cette impression que le silence... On n'existe plus, quoi, dans le silence. Et on n'existe que par la parole, quoi. Il n'y a que ça qui nous fait... Mais bon, je le travaille. Mais c'est peut-être, oui. Sinon, le silence sans personne, là, ne m'angoisse pas, par contre. Si ce n'est pas le silence de quelqu'un. Si c'est un silence, par exemple, je suis toute seule dans la campagne, quoi, là, je ne peux pas apprécier. Mais là, je parle du silence de quelqu'un.
Ce que je cherche à comprendre, c'est pourquoi le silence est angoissant, en fait. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on se dit que le silence est angoissant et qu'on veut le casser, en quelque sorte.
C'est une longue histoire. Non, je crois qu'on a chacun nos façons de se défendre. Et moi, c'était, entre autres, de parler. Et puis bon, pour quelle raison, ça... Il y en a plein. Mais... Parce que je pense que la parole donne l'illusion d'une maîtrise sur soi-même, sur l'autre, sur ce qui se passe, tout simplement. Et Moi, je crois que si j'aime pas le silence, c'est parce que j'aime pas ne pas maîtriser les choses, quoi. C'est ça. C'est dans une perspective de toujours de lutte contre l'angoisse, quoi. Je pense. Et c'est pour ça que le silence est angoissant, parce que on peut tout lui faire dire.
Le silence entre un homme et une femme, je crois, soulève la question de la séduction, soulève la question de la face, de ne pas perdre l'estime de soi et de donner à l'autre une image positive. Donc je pense que les relations homme-femme sont souvent perturbées par cet impératif d'apparence, cet impératif de séduction qui fait qu'on n'a pas envie de donner une mauvaise image de soi. Et donc effectivement, rester silencieux devant une fille pour un homme, j'imagine que ça peut mettre en danger... Le souci qu'il a de donner de lui de se donner sous les meilleurs auspices. Alors autre chose me paraît important aussi dans les relations hommes-femmes, et ça renvoie davantage à des relations de couple de longue date, qui moi m'ont frappé dans un certain nombre de rencontres que j'ai pu faire, mais qui ont marqué apparemment aussi Dostoïevski dans un très beau texte, c'est La Douce, si ma mémoire est bonne. C'est le fait qu'un certain nombre d'hommes s'enracinent dans le silence avec leur compagne et vivent ce silence avec une grande souffrance, mais n'arrivent plus à le rompre. Et ça m'évoque une histoire, celle d'un homme qui rentre de façon impromptue chez lui. Sa femme et sa fille ne l'ont pas entendu venir, et il entend dans la chambre, il entend sa femme et sa fille qui parlent avec énormément de jubilation, de bonheur. Et il est absolument sidéré parce qu'il est habitué à voir sa femme et sa fille toujours silencieuses, incroyablement sérieuses, et donc il comprend pas ce qui se passe, il avance tout doucement vers la chambre. Et puis tout d'un coup, lorsque sa femme et sa fille l'aperçoivent, elles se taisent, et sa femme lui dit « Excuse-moi, t'avais pas entendu Et puis elle retrouve à nouveau leur mutisme, et l'homme comprend à ce moment-là qu'il est tenu à l'écart de la vraie vie de sa femme et de sa fille depuis des années et des années, parce que jamais il n'aurait cru qu'elles étaient aussi joyeuses et aussi loquaces. Et il comprend à ce moment-là, avec énormément de douleur, que finalement, dans les premiers temps de son mariage avec cette femme, à chaque fois qu'elle voulait lui raconter quelque chose, il avait une tendance à l'arrêter. À chaque fois qu'elle avait envie d'un peu d'affection, il avait tendance à la repousser. Et il comprend, il en parle à quelqu'un d'autre, et il explique qu'il avait peur de cette communication trop spontanée dans les premiers temps de leur mariage, et que donc il a finalement forcé sa femme à cette position silencieuse, et puis qu'elle s'y est incrustée, et que sa fille a grandi également dans le même sentiment qu'il ne fallait pas rompre le sérieux de son père, et finalement c'est l'histoire d'un gâchis.
Jeune moignon pose la question à son maître, qu'est-ce que le silence ? Alors ils sont tous les deux en train de se promener sur un énorme plateau désertique. Et puis quand le jeune moignon lui pose la question, le moine presse le pas, ne répond pas, ne dit rien. Et le jeune moine lui tire la rome, qu'est-ce que le silence ? Qu'est-ce que le secret du zen ? Qu'est-ce que le silence ? On dit que le silence est le secret du zen. Qu'est-ce que c'est que ce silence ? Et le moine ne dit rien, ne répond pas. Alors, ils continuent leur promenade. Le jeune, qu'est-ce que le secret ? Qu'est-ce que le silence ? Ils arrivent au bord d'un précipice. Et au bord de ce précipice, il y a un arbre dont les racines sont inscrites en bordure dans les rochers. Et l'arbre est en surplomb au-dessus du vide. Il pousse perpendiculaire comme ça... donc à la falaise, et le vieux moine, le maître, dit à son jeune disciple, « Tiens, tu vas marcher le long de cet arbre, c'est du vide. » Le disciple est un disciple affectueux, dévoué, qui écoute son maître en toutes circonstances, et voilà qui marche le long de cet arbre, avec beaucoup de précautions, bien sûr, enfin... Et puis, à une certaine distance, le maître l'arrête et lui dit « Maintenant, tu vas mordre la branche et te laisser suspendre dans le vide. » Et voilà le moine, le jeune moignon, qui est suspendu dans le vide. Tu lâches les mains maintenant, uniquement avec les mâchoires. Il est suspendu dans le vide, un peu comme un fruit vert qui flotte dans le vent. Et à ce moment-là, le maître se penche et lui dit « Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que le secret? Qu'est-ce que le silence ?» Le silence est supérieur à l'éloquence, disait Taisen Deshimaru, le moine zen dont j'étais le disciple. Supérieur à l'éloquence, le silence.
L'apprentissage du silence, le malentendu. David Le Breton, anthropologue, auteur du Silence, édition Métayer. Jacques Deperne, chroniqueur à l'actualité des religions. Henri Cachia, comédien. Anne-Laure, Denise Marie et Giuseppe. Extrait de La vie est ailleurs, de Milan Kundera, lu par Mireille Boyon. Merci à Éric Doniol-Valcroz. Georges Thau, Monique Burger, Ferdinand Prévost, Véronique Lamandour, Christophe Deleu. Nuit Magnétique, bonsoir.
C'était L'apprentissage du silence, un numéro des Nuits Magnétiques, diffusé pour la première fois le 29 mars 1999 sur France Culture.